On n'en parle que trop souvent, malheureusement. Les agressions antisémites se multiplient, bien entendu, en France, en Belgique aussi, mais en France, c'est exacerbé. Le rave Elie Lemel a été agressé à Deauville, puis à Neuilly, et cela en une semaine à peine. Il revient sur ce qu'il a vécu et les leçons qu'il en tire pour le peuple juif, et ce, à votre micro, ma chère Lise.
Rave Elie Lemel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Déjà, est-ce que vous allez mieux ?
Baruch HaShem, grâce à Dieu, je vais mieux. C'est vrai qu'on sent un petit peu le retentissement quand même maintenant. J'ai pas envie de dire oui, un petit peu au niveau psychologique, parce que c'est vrai que c'est assez bouleversant. Et vous réalisez que vous dormez beaucoup moins, donc il se passe des choses dans la tête, clairement, même si on ne le pense pas. Physiquement, ça va, c'est en train de se résorber. Des petits bobos, mais vraiment pas grand-chose.
Alors, deux agressions en moins d'une semaine dans deux villes différentes et en plus des villes dans lesquelles, je dirais, on se méfie pas parce que vous étiez pas au coin de Molenbeek, vous étiez à Deauville la première fois et dans un café à Neuilly la deuxième. Ça en dit long sur la situation en France.
C'est vrai que ce ne sont pas a priori des quartiers, des lieux dans lesquels on peut s'imaginer qu'il va y avoir à un moment une agression. Mais concrètement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Clairement, c'est pas quelque chose auquel on pouvait s'attendre, mais voilà, ça arrive et c'est surtout très surprenant. C'est surprenant parce que on réalise qu'il n'y a peut-être plus véritablement d'endroit dans lequel on peut parler de se sentir en sécurité.
Mmh. Et dans les deux cas, vous portiez une kippa, Rave Elie Lemel, comme vous le faites tous les jours, et c'est clairement ça qui vous a désigné comme juif de la part de vos agresseurs.
Clairement, c'est-à-dire comme ma barbe n'est pas amovible et que ma kippa, eh bien, je la porte depuis enfant et voilà, c'est pas comme je le dis clairement, c'est pas une affirmation identitaire, c'est que tout simplement, voilà, ben on se promène avec la tête couverte et pour moi une kippa c'est plus simple et puis c'est comme ça que je me promène depuis toujours. Donc clairement, la première agression, d'ailleurs c'est intéressant, ce sont trois personnes, je pense, de pays slaves et j'ai vraiment eu l'impression quand ils m'ont barré la route. Qu'ils attendaient que le petit juif, vous savez, dans cette imagerie peureux et courbé, s'en aille. Alors, non, clairement, j'allais pas évidemment commencer à vouloir me battre parce que d'abord je suis pas équipé pour et puis c'est pas le but. Mais à un moment, non, on avance. Et je pense que c'est une vision aussi de la tradition juive. Donc j'avance et quand j'arrive à leur niveau, eh bien là, en effet, il y a un coup violent au niveau du ventre. Je me suis retourné immédiatement en leur disant « Mais qu'est-ce que tu me veux ?» Quand vous voyez trois personnes plutôt costauds qui se mettent en posture pour me dire « bon, on va continuer », je suis peut-être courageux, mais pas téméraire et pas fou. J'ai continué mon chemin et je me suis retourné. J'ai vu qu'en effet, ils attendaient qu'éventuellement je rebrousse mes pas. Donc oui, en effet, clairement, il y a ça. Par contre, ce qui s'est joué à Neuilly, c'est très différent. Je ne suis pas souvent sur les terrasses de café. Là, j'ai un rendez-vous qui ne peut pas se tenir à mon bureau parce qu'il y a du monde. La personne veut me parler d'un sujet personnel. Et là... c'est par derrière. Hein. Donc, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, si ce n'est de me dire mais qu'est-ce qui se passe ?
Un effet de surprise où vous prenez une chaise sur la tête.
C'est le coup était extrêmement violent.
C'est ça. Rave Elie Lemel, vous avez témoigné dans une grande dignité et ça a beaucoup impressionné nos compatriotes français. Vous avez dit quand il y a de l'obscurité, on la chasse pas à coups de bâton, il faut rajouter de la lumière. Vous avez relativisé vos agressions en pensant aux soldats israéliens et aux familles endeuillées. C'est important aussi cette façon de réagir. Ça donne une leçon d'humanité face à la barbarie.
Oui, je crois que de toute façon, je pouvais pas réagir autrement parce que j'ai eu la chance et le bonheur de grandir dans un univers dans lequel la Torah et son étude ont toujours été au centre. Et au passage, pour moi, c'est très émouvant de vous parler parce que mon épouse est née et a grandi à Bruxelles. Elle a fréquenté l'école Maïmonide. Donc, je me sens en lien particulier en plus avec cette ville. Et c'est vrai que quand vous avez eu la chance d'avoir des maîtres, et bien, vous avez appris un petit peu comment on essaye de penser la vie. Et à partir de là, et bien, c'est quelque chose qui réémerge au moment où vous êtes confronté à une situation. C'est à ces moments-là, on voit si véritablement on a essayé un tant soit peu d'intégrer le message que l'on essaye de transmettre et d'apprendre.
Bien sûr.
Ce sont des moments de test.
Malheureusement, le message que ça transmet et que vous avez transmis aussi, c'est que la communauté juive en France, mais en Belgique, c'est exactement pareil, a tout de même peur et se sent avec une cible dans le dos, Ravelli Lemel.
Clairement, clairement. Et vous savez, c'est quelque chose, et on va entendre ce que je dis au second degré, parce que ce serait sinon pas très élégant de ma part. J'ai reçu un certain nombre de messages disant « vous devez appeler à la Alia, vous devez appeler à ceci, vous devez appeler cela ». D'abord, ce n'est pas mon rôle d'appeler, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Quand les gens viennent poser une question, on réfléchit avec eux. Et je me dis, au fond, les cibles, oui, ce sont surtout ces juifs identifiables ou des lieux identifiables. Je crois que là, on est en train de passer très clairement à la vitesse supérieure. Pour différentes raisons que je n'exposerai pas ici, mais j'ai eu très récemment des conversations avec des responsables communautaires et on se rend compte qu'il y a une atmosphère qui est en train de changer et qu'il y a une forme d'instrumentalisation du conflit pour pouvoir laisser s'exprimer quelque chose de manière très débridée. Parce qu'au fond, c'est un petit peu ça le problème. C'est-à-dire que les gens soient antisémites, anti ce que vous voulez, c'est leur histoire, c'est leur problème. Mais là maintenant, on se sent libre. L'utilisation de la terminologie « génocide », c'est une inversion des systèmes qui fait qu'on se débarrasse du mur protecteur que pouvait éventuellement encore représenter la Shoah dans la conscience collective. Et à partir de cela, on se sent totalement libre. Et c'est là ça qui est en train de se jouer. Il y a quelque chose de beaucoup plus problématique qui se met en place, sur lequel on a vraiment, vraiment une nécessité absolue de réfléchir, ne serait-ce qu'au niveau sociétal. Au-delà du problème de l'antisémitisme en tant que tel, il y a quelque chose qui se joue de manière beaucoup, beaucoup plus vaste.
Est-ce que justement, Ravelli Lemel, vous avez la sensation qu'en France et peut-être en Belgique, puisque vous connaissez bien, les gens qui ne sont pas juifs se sentent concernés ou se disent que après avoir attaqué des juifs dans la rue, ils attaqueront n'importe qui, entre guillemets?
Alors, c'est ce que je disais toujours tout à l'heure, pardonnez-moi, l'autre jour. Je vous prie de m'excuser. L'autre jour sur CNews, à Laurence Ferrari, qui à un moment m'interrogeait sur ça, j'ai dit, vous savez, au fond, aujourd'hui, le peuple juif, on est le canari dans la mine. Le canari dans la mine, c'est le premier qui se fait avoir par les vapeurs toxiques. Et quelque part, les sociétés doivent bien, bien, bien réfléchir sur ce qui est en train de se jouer, parce que au-delà de tout l'enjeu de la confrontation à l'islamisme radical, et de sa stratégie et de sa vision du monde, se pose aussi la question des cadres, des limites et des digues qu'une société doit construire pour permettre à être dans ce mot qui, au fond, aujourd'hui, ne veut presque plus rien dire, le vivre ensemble. Et n'oublions pas, et ça doit d'abord se passer dans notre communauté, comme dans toutes les communautés, mais on est tous concernés. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. On a le droit de ne pas être d'accord. Je ne partage pas tant d'opinions, mais je te respecte. Alors évidemment, si l'opinion de l'autre, c'est une opinion qui est là et dont la finalité, c'est de me faire disparaître, là, évidemment, malheureusement, on va être obligé de se lever et de mettre en place ce qui est nécessaire, parce que le coup de la seconde joue, non, même pas en rêve. Évidemment, ça n'existe pas, mais, l'enjeu, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, la confrontation à des idées totalement opposées doit générer des réactions de violence, qu'est-ce qui se situe, qu'est-ce qui se joue derrière. On m'a demandé d'intervenir après le 7 octobre dans une école professionnelle dans laquelle il y a bon nombre de juifs et bon nombre de musulmans. Et évidemment, il y avait des tensions et je me suis retrouvé devant 250 jeunes de toutes confessions, mais surtout juifs et musulmans, en leur disant, écoutez, en soit bien clair, personne n'arrivera à convaincre l'autre de la justesse de son propos. On va mettre ça de côté. On va pas débattre. Nous ne sommes pas prêts ni d'un côté ni de l'autre à entendre que peut-être nous avons tort. Point. Maintenant, on est là. On fait quoi? Et c'est là où, en effet, il faut réfléchir. C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire de montrer la justesse de sa vision en détruisant l'autre? Alors oui, malheureusement, quand on est sur le terrain de la guerre et c'est un drame épouvantable, ben oui, ça a des conséquences. Mais là, on est à l'extérieur. Ça sert à quoi? À rien. Et c'est pas simple. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crois que c'est sur cela où il faut véritablement réfléchir. Et est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit encore? Ça, c'est déjà une seconde problématique et une seconde question. Mais ne serait-ce que vous savez, dans nos communautés aussi, de manière générale, la plus vaste, il faudrait faire en telle sorte que les différences d'opinion, qui sont parfois sont vives, eh bien, respectent des fondamentaux éthiques dans la manière dont on se positionne dans la relation à l'autre. Vous savez, dans la tradition talmudique, il y avait deux écoles très opposées dans le débat de talmudique, Shammai et Hillel. Le texte nous dit que leurs enfants se sont toujours mariés entre eux. C'est-à-dire que les enfants de Shammai et de Hillel arrivaient à se marier entre eux. Pourquoi ? Parce que derrière cette confrontation d'idées, il n'y avait pas de remise en cause de l'individu qui était en face. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas, mais il y a ici, à mon avis, un enjeu énorme sur lequel on se doit de réfléchir.
Ma dernière question, Ravelli Le Maine. La conférence des rabbins européens demande des mesures urgentes. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ?
Écoutez, il est peut-être trop tard parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais la prochaine conférence, une des conférences des rabbins européens qui doit avoir lieu à Sarajevo, a été annulée hier soir.
Non, par demande je ne le savais pas encore.
Par ordre du gouvernement bosniaque, parce qu'on ne veut pas soutenir une conférence de personnes qui soutiennent le gouvernement génocidaire de M. Netanyahou. Ça date hier soir.
Mais vous la ferez en Hongrie, Ravelli Le Maine.
Pardon ?
Vous la ferez en Hongrie, à Budapest, au lieu d'aller la faire en Bosnie.
Elle aura lieu, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui l'organise. Je vous rassure tout de suite, elle aura lieu sans doute au siège, à mon avis, en Allemagne, à Munich, mais il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer.
Ouais.
C'est-à-dire là, on est en train de franchir des crans. Alors, attention, je ne rentre jamais dans la paranoïa juive, elle ne sert à rien. Mmh. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut être aussi dans l'espoir et regarder. Et peut-être je vais conclure là-dessus. Il y a 70 ans, on vous aurait raconté ce qui se passe aujourd'hui. 70 ans après la Shoah, vous aurez dit c'est pas possible. Mais il y a 70 ans, on vous aurait raconté l'Israël d'aujourd'hui, vous aurez dit c'est pas possible. C'est pas possible. Startup Nation, un lieu dans lequel les Juifs du monde, dans toute leur diversité, se retrouvent, un lieu dans lequel on a une armée incroyable, un lieu dans lequel les gens sont encore en train de se disputer, l'étude de la Torah. C'est pas possible, c'est inimaginable. En 45, en 47, ceux qui fondent et qui se battent pour ce pays viennent d'enlever leur pyjama rayé pour enfiler un semblant d'uniforme entre six armées et fonder un pays sous le feu de la guerre tout le temps. C'est inimaginable. Eh bien, aujourd'hui, ce qui se passe est inimaginable et c'est une réalité. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, le peuple d'Israël s'inscrit dans une histoire qui, qu'on le veuille ou pas, a une dimension particulière. Et c'est là aussi où il y a lieu de bien réfléchir sur la manière dont on va essayer de continuer à conduire cette histoire.
Merci beaucoup, Ravelli Le Maine, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Refoua Shelema et à très bientôt.
Amen. Je vous remercie de votre accueil en tout cas et que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif et pour l'humanité aussi.
Merci, Kol Tov.